And now, ladies and gentlemen, our national anthem. Please welcome Grammy-nominated singer-songwriter and panelist on Fox's The Masked Singer, Miss Nicole Scherzinger.
La dernière élection. Bonjour, Martin Proulx.
Ah, bonjour, Thomas Lebel.
Bonjour. Heureux de te retrouver en ce mois d'avril passablement occupé. Je pense qu'on est plutôt occupés tous les deux.
C'est-à-dire qu'il y a un vent d'espoir. Avec avril, revient l'espoir.
Oui.
La saison des procès s'ouvre. Je pense qu'on peut dire
absolument.
Ça.
Absolument. Et là, avec l'ouverture du nouveau procès de Donald Trump, procès criminel, on va y revenir. Je pense que en ta qualité de juriste, tu vas nous expliquer tout ça.
Je me suis penché, comme on dit. Non, c'est sûr que dans les prochaines années, la saison. Alors, donc, on dit la saison, il y a plusieurs procès. Il y en a un qui s'ouvre, mais imagine, dans 15 ans, c'est sûr que toute la télé, il n'y aura plus rien d'autre qui va se produire que la reconstitution. Il n'y aura plus de téléromans, il n'y aura plus de. On va ne faire que ça. Je pense qu'on va retrouver. Les petits, maintenant, on fait des mini-séries, 6 épisodes. Tu dis, mon Dieu, c'est beaucoup. Et on fait 6 heures. Tu sais, je pense que là, on va retrouver le plaisir, comme à l'époque de 24, tu sais, les DVD. D'abord, je pense que le DVD va revenir.
Fait que toi, tu penses qu'on va regarder des reconstitutions des procès de Trump en DVD. Tu rêves en couleur, mais écoute, je te suis.
Non. Non, non. Disque revient, tout revient. Moi,
mais
je pense que le DVD va revenir. On va réouvrir les Superclubs Vidéotron. La caméra numérique revient. Il se trouve tout vintage au pique-nique électronique d'avoir des 27 poses jetables.
Avec Martin, c'est pas une caméra numérique. C'est deux choses différentes, grand papa. C'est qu'il y a la caméra jetable avec un film, puis il y a la caméra numérique. Ça, c'est comme la petite carte flash là, que tu.
Bon, c'est ton expérience qui parle. Je vais te suivre. Je vais boire tes paroles comme d'habitude.
Fait que...
Mais oui, moi, je pense que ça va inspirer les réalisateurs, les auteurs, les gens de culture pendant des siècles et des siècles. Amen. C'est extrêmement riche ce qui s'ouvre en ce moment. Donc, le premier procès, quand même incroyable, mais c'est quand même très. Ça définit Donald Trump que ça ne soit pas un autre procès que celui-là.
Mais il faut rappeler que c'est la première fois qu'il y a un procès criminel contre un ancien président. Jusqu'à maintenant, Nixon avait été pardonné par Gerald Ford. Donc, on est là. On est dans ces. Il y a eu tellement de premières avec Trump. Il y a tellement une fatigue des premières. Twice impeached, là, on dit souvent qu'il y a eu 2 procès au Congrès pour le faire destituer. Et là, on est comme fatigué, on réalise pas à quel point c'est historique, en fait. Moi, c'est ça qui me frappe cette semaine.
À chaque mois,
à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec lui, c'est inédit, c'est incroyable. Juste l'histoire de trouver, je sais pas, 175 millions ou 150 millions pour payer Jenny Carroll il y a quelques semaines.
Oui.
Ça, c'était complètement inédit. À chaque fois, il y a quelque chose où il dépasse complètement l'histoire. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on est au début de ce procès-là, mais quand on est encore juste au début de ces nouvelles premières-là, parce que là, il va y avoir ce procès-ci, il va y avoir après ça un procès pour le 6 janvier, un procès pour...
Peut-être
pour le 6 janvier, effectivement. Oui. Probablement dans l'État de Géorgie pour sa tentative de faire renverser les résultats électoraux.
Oui.
Donc, on entre dans cette grande saison des procès-là. Et le premier procès qui ouvre la saison, le début de la saison, comme on dirait, c'est celui pour, je dirais, les pots de vin. Est-ce qu'on dirait que c'est des pots de vin, le hush money qui a été payé à des actrices porno?
Il s'agit d'un procès de hush money. Moi, ce matin au gym, j'ai mis à jour ma playlist. Je me suis créé une playlist de hush money.
Hush, hush. Des fois, c'est $4. Alors que moi, j'y mettrais peut-être plus Don't You Wish Your Girlfriend Was Hot Like Me. Parce que toute cette histoire-là, c'est lié aussi quand même à. C'est lié quand même à Trump qui a trompé Melania avec Stormy Daniels. Fait que Stormy pourrait dire Don't You Wish Your Girlfriend Was Hot Like Me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me?
Don't you? Jimmy Hush Hush, je trouve que c'est une tune parfaite pour le stair, pour se réveiller le matin. Ça marche, ça nous ramène directement en 2008. Hush, hush.
Nicole Scherzinger, qui a gagné un prestigieux prix de théâtre à Londres cette semaine, d'ailleurs. Okay, oui. On arrête de vous parler.
Peut-être que... Mais c'est ça qui manque. Il devrait mettre de la musique. Moi, si j'habitais à Manhattan, j'attendrais la sortie du palais de Donald avec des gros speakers, puis je mettrais ça avec des danseurs. Tu sais, ça manque un peu de showbiz autour de ça, parce qu'il y a des... Ah, en fait, j'ai une playlist à deux chansons, la deuxième étant une toune de Céline.
Ah oui? Laquelle?
Qui me donne un peu d'espoir, si je te dis « Hush! » Alors, Hush Now, moi je trouve que ça marche avec le printemps, cette semaine, ça marche avec l'espoir. Espoir qui renaît, puisque peut-être que cette cause-là de Stormy Daniel fera en sorte qu'il y a suffisamment d'électeurs dans les swing states qui vont décider de tourner le dos à Donald Trump et ainsi lui tirer sous les pieds la possibilité qu'il ait un deuxième mandat. Alors, peut-être que Hush Now, I see a light. Oh, it's almost blinding me. Peut-être. Oui.
Et écoute, les prochaines semaines s'annoncent quand même captivantes parce que ce sera un procès qui sera à la fois complètement salace avec plein
salace?
De...
Salace? Wow, sans tes grands mots.
Avec plein de ragots et de potins et de témoignages. On imagine Stormy Daniels, on imagine Michael Cohen, maintenant l'ennemi de Trump, son ancien avocat. Peut-être que Trump lui-même aussi, il laisse planer le doute sur est-ce qu'il va témoigner à la barre pour assurer sa défense.
Il a dit qu'il allait témoigner. Il a dit oui.
Et en même temps, il y a une grosse dimension technique parce qu'il est accusé sur un crime de col blanc. Il est accusé sur un crime d'avoir menti sur des dépenses électorales dans la campagne de 2016 en remboursement de frais juridiques, des remboursements qui ont ultimement servi à payer l'actrice porno Stormy Daniels pour pas qu'elle raconte son histoire. Mais là, aujourd'hui, Martin, on va passer l'épisode à rappeler les faits, à rappeler aussi que tu es toujours membre du barreau, que tu payes toujours ta cotisation. Donc, tu es un juriste qualifié. Tu es notre correspondant légal. Donc, moi, j'adore ça à CNN et à MSNBC. Ils ont toujours des correspondants légaux vraiment nerds qui vont, tu sais, hier, j'écoutais, qui vont rappeler à quel point les arguments des avocats sont bien ficelés, bien écrits, tellement brillants et qui vont en même temps aussi, parfois et très souvent, en fait, détruire les arguments des juges conservateurs sur la Cour suprême.
Non, je suis comme une juge. Je suis peut-être plus même... Ben, en fait, peut-être, non. Je pense que si je dois me rapprocher de quelqu'un, je suis peut-être plus comme près de la juge Gibault à LCN, tu sais, qui est tout le temps devant ses trois œuvres d'art dans sa grande salle là, à Denis Lévesque. Là. Mais ça existe
c'est toi,
plus,
ça,
mais...
la juge
Gibault. Je suis peut-être plus une juge à la retraite qui était...
La juge retraitée.
Ouais.
Donc, c'est ça, toujours juriste après tes études en droit.
Oui. Non, je paye ma cotisation que j'ai payée quand même à contre-cœur il y a quelques temps.
Oui, ça coûte.
J'ai encore des amis qui m'appellent pour savoir quoi faire quand ils divorcent. Je leur dis...
Mais voyons, t'as jamais fait droit familial.
Je leur dis, pars avec la moitié en courant, puis revire-toi pas de bord. Mais oui, on fait du droit de la famille, on fait toutes sortes de choses. On fait évidemment pas de droit américain.
Donc, on est au début de ce procès-là qui commence dans la cour du district de Manhattan.
On est à Manhattan.
Manhattan, avec la sélection cette semaine des premiers membres du jury.
Incroyable.
Plein de gens, on est passé à travers leur historique sur les médias sociaux. On a lu devant Donald Trump des mèmes que les gens avaient partagés sur les médias sociaux. Souvent, ça les disqualifiait parce qu'on imagine que c'était un peu pour le ridiculiser.
Oui.
Donald Trump a même déjà été agressif avec certains jurés potentiels.
Oui.
Le juge lui a dit « aucune intimidation dans ma cour ». Bref, on est…
On en passait à peu près 200. Puis là, à date, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, ils n'ont sélectionné 7. Fait que là, on verra quand
c'est pas mal, Martin, parce qu'on cherche des gens pour être membre de ce jury. Parce que ce sera le jury qui va décider s'il est coupable. Des gens qui sont d'accord pour que le procès soit fair, que le procès soit juste et de ne pas décider d'avance s'il est coupable ou non.
Exactement.
On imagine des gens peut-être qui ne suivent pas nécessairement la politique ou qui ne sont pas très militants ou au contraire pour qui la justice, c'est vraiment important. Mais bref, c'est fascinant.
Oui.
Mais bref.
On pourrait penser qu'à New York, il y a assez de monde qui déteste Donald Trump pour même mentir en disant qu'ils sont qu'ils vont être impartiaux, qu'ils ont toutes les capacités requises, mais qu'ils vont vouloir le descendre. Et là, il y a la plupart des gens, il y a des centaines de personnes qui, en cours, ont dit « non, je l'haïs trop ». je ne serai pas.
C'est un des districts aussi les plus démocrates au pays. Fait que c'est, il faut trouver des gens, puis c'est pas nécessairement, on peut pas demander aux gens leur affiliation politique, mais à travers certaines questions que les avocats, puis en plus aussi, c'est que la sélection du jury se fait. Je suis tellement excité. La sélection du jury se fait par les avocats de la défense, donc de Donald Trump et le procureur, qui vont aller un peu interroger. On comparait ça à la télé à un genre de focus group, aller poser des questions. Bref,
on dit ça.
Juriste, la juge Gibault, Martin, lance-toi.
Mettons que je mets ma toge avec ma petite
toge,
ma perruque de juge Gibault, que j'ai une connexion Internet moyenne, puis que je t'en dirais que le midi à LCN. Qu'est-ce que je dirais si toutes ces informations-là et ce visuel-là se concrétisaient? Je dirais que qui est Stormy? D'abord, je pense que c'est important de comprendre d'où on part, qui sont les acteurs en jeu. Qui est Stormy Daniel? Okay? À part d'être une tempête, qui est-elle? Elle s'appelle Stephanie Clifford.
Okay? Tu me niaises.
Non, non, c'est vraiment...
C'est son vrai nom.
Oui, oui, Stephanie Clifford. C'est vraiment des personnages du cœur à sa raison. Tu vas voir tous.
Oh mon Dieu, c'est
Stephanie
clair.
Clifford, tu sais, je veux dire, on dirait là, une madame qui maltraite Madge dans le cœur à ses raisons.
On dirait Pascal Bussière.
Ça pourrait être un personnage...
Elle aurait joué Stephanie Clifford.
Okay, elle aurait joué Stephanie Clifford! On dirait que j'entends Dorval crier « Bright! Stephanie Clifford! » Non! Ça prendrait du Anne Dorval. Une question très approximative. Mais c'est donc Stephanie Clifford qui, en 2006, rencontre Donald dans un tournoi de golf à Mar-a-Lago.
Attends, mais en 2006, Trump a 60 ans.
Oui,
donc, il est en 46, elle, donc en 2006, Trump a un... Et elle, a quel âge?
27.
Oh là là, oh boy. Oui. Il pourrait être son père, évidemment, bien entendu.
Elle a, oui,
il pourrait elle a l'âge d'Ivanka à peu près à ce moment.
Elle a l'âge d'Ivanka et il lui dit au moment de la rencontrer, tu me fais penser à ma fille Ivanka.
Shut the fuck up.
Non, non, mais tu iras voir à Anderson Cooper. Évidemment, Stephanie Clifford s'est livrée maintes et maintes fois. Il y a plein d'entrevues. Elle est assez articulée, assez intelligente. Il y a un documentaire sur elle, d'ailleurs.
C'est fucking qui, badass.
Elle est vraiment hot. Moi, j'ai écrit, d'ailleurs, à son courriel. Je ne sais pas si je l'avais dit à ce micro, mais je lui avais écrit Stephanie@cliffordscom.com. Puis, bon, elle m'a jamais répondu, mais c'est vrai que je peux aller voir dans mes indésirables depuis quelques jours.
Peut-être
qu'on peut la mettre en ligne avant la fin de l'épisode.
Stephanie Clifford fait la rencontre de Donald Trump.
Elle rencontre Donald en 2006 et à ce moment-là, lui, Donald Trump, anime The Apprentice, You're Fired. Oui. Et donc, il lui fait miroiter une participation dans The Apprentice. Stephanie Clifford aime bien l'idée, etc. Et pendant des années, il va lui faire miroiter la même participation à sa série, je ne sais pas si on peut dire culte, mais sa série à succès sur NBC.
Mais ils font pas, il ne fait pas juste miroiter, là, il consomme l'union. Là.
C'est-à-dire que voilà. Alors, un bon soir où il y avait peut-être une petite brise douce à Mar-a-Lago, Stéphanie est sur le patio, les deux montent à l'étage et Donald et elle consomment. Et au premier soir de leur échange de fluides, elle lui fait la fessée. Alors ça, c'est tout elle qui le raconte.
Trump est un peu BDSM. Ah, mais j'aime ça quand même.
Il est un peu BDSM, effectivement. Peut-être quelques accessoires de cuir ou autre chose.
Oui, c'est un nasty pig.
Oui, je ne sais pas si on peut dire ça.
Comme c'est un nasty pig, parfait.
Oui, okay. Exactement. Alors, il consomme, etc. Et l'amour, évidemment.
Mais attends, et... Mélania est où dans le portrait à ce moment-là? Ils sont mariés, là.
Oui, mais il lui dit, elle a posé des questions, puis lui, il dit « Don't worry about Melania. We don't sleep in the same bed. » Alors, il lui dit qu'ils sont pas, qu'ils ont un arrangement. Genre, il dit tout, là. Puis là, elle fait comme, bon, ben, ça va être correct. C'est du sexe consensuel. Fait que c'est pas une affaire d'agression. C'est pas une affaire de Me Too. On n'est pas là-dedans. C'est quand même important de le dire parce que ça pourrait avoir des allures de ça, mais ce n'est pas le cas. Alors, elle a 26, lui a 60 ans. Il se voit pendant quelques temps.
Il y a quand même une relation de pouvoir. Tu dis qu'il n'y a pas ça, mais entre le 60 et le 27, l'autorité que lui a comme producteur, comme animateur populaire, il y a un déséquilibre quand même, même s'il n'y a pas d'agression.
Absolument. Absolument. En 2011, il lui dit que elle n'a pas, qu'il n'a pas rien pour elle. Donc, oui. Non, il dit, excuse-moi Stéphanie, mais j'aurai rien pour toi finalement, etc. Et elle, entre-temps, elle se fait offrir de raconter son histoire. Les magazines à potins comme les National Enquirer de ce monde, la presse, les tabloïds courent après Stéphanie pour qu'elle raconte son histoire. Parallèlement à ça, il y a une autre fille dont il faut parler aussi, qui fait aussi partie de la cause qui est devant la cour à New York. Elle s'appelle Karen McDougall.
Mais voyons, okay. Karen a raison.
Oui. Karen McDougall, qui, elle, est une playboy qui, à la même époque aussi, a couché avec Trump. Donc, ces deux histoires-là font... Il y a des rumeurs qui courent, etc. Il y a des tabloïds qui veulent acheter l'exclusivité à ces deux filles-là de leur histoire. Comme ça que ça marche. Je te paye 200 000 $ tu me donnes l'histoire, puis je suis le seul à pouvoir le publier, puis ils font tout un contrat avec ça, etc. Qui entend parler de ça? Là, on se retrouve à peu près à la veille, ou en tout cas pas loin, dans l'année électorale en 2016. Michael Cohen, okay, qui oui. est le fixeur et l'avocat personnel de Donald Trump, entend parler de ça. Ça commence à l'agacer un peu, mais là, attention, cataclysme déclencheur. Au moment où le tape de Access Hollywood sort, on se rappelle le tape de Access Hollywood quand Donald avait dit de façon très candide à l'animateur de Access Hollywood, « You can do anything, you can grab them by the pussy, they'll let you do anything. » Donc, le fameux « grab them by the pussy » à une semaine avant l'élection, cataclysme politique, on pense que ça va faire perdre la campagne de Donald.
À ce moment-là, Michael Cohen fait un deal avec Stephanie Clifford. Et oui. qu'il la paiera, c'est combien? 100
voilà, c'est qu'à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il achète, lui, à prix plus cher, l'exclusivité de son histoire, 130 000 $ ouais. 150 000 $ pour Karen McDougall, OK? Donc, il achète, c'est pour ça que le hush money, il achète ça.
Hush comme paye. Étoile, comme de l'argent pour sa terre. Là.
Exactement. Et ça, il faut le dire, ouais. il n'y a rien d'illégal là-dedans. Moi, je peux te virer par intérêt avec 50 $ pour pas que tu racontes des soirées compromettantes. Pas qu'il y en ait, mais si jamais...
Oui, oui.
Bon, tu sais, il n'y a rien de...
Des grosses soirées de drogue à consommer du CNN, là. T'sais.
Exactement. Donc, c'est des soirées qui peuvent être gênantes, mais il n'y a rien d'illégal à payer une porn star, de base, qui n'a pas déjà payé du monde sur OnlyFans. Évidemment, il n'y a rien de...
Voilà, c'est ça. Mais donc, Michael va faire ça à quelques jours de l'élection. Et moi, j'ai entendu l'expression « catch and kill » aussi, qui ça signifie quand quelqu'un va acheter une histoire, mais pour pas la sortir. Oui. Eux, ils l'ont payé pour pas sortir l'histoire.
Exact.
Mais un autre média aurait pu très bien la payer pour sortir l'histoire. J'imagine qu'elle avait compris à ce moment-là que c'était que l'histoire allait pas sortir aussi.
Oui. Ben, évidemment, elle voulait pas que ça sorte non plus, parce qu'en 2006, quand elle couche avec, elle sait pas qu'il va être candidat à la présidentielle. Je veux dire, ça fait déjà 10 ans de ça, là, tu sais, je pense que, bon. Et donc, il se retrouve en 2016, elle reçoit un chèque de 130 000 $ et c'est Michael Cohen qui fait un chèque personnel de 130 000 $ à Stephanie Clifford.
Tu me niaises.
Quand Trump arrive à la Maison-Blanche, bon, finalement, il est élu, le tape n'a pas été assez fort, Trump est élu, il rembourse Michael Cohen et à ce moment-là, il falsifie les livres de la Trump Organization puis il fait passer cette dépense-là pour une dépense de frais juridiques de la campagne électorale.
La campagne électorale, okay.
Et ça, la falsification de livres, c'est en soi une infraction, mais c'est un misdemeanor. J'aime bien ce mot-là.
Un crime de misdemeanor.
Exactement. C'est pas l'acte criminel qui va faire en sorte. C'est pas un acte criminel, c'est un misdemeanor. C'est une infraction de moindre importance. Et pour que ça devienne une infraction criminelle, donc le cas de Alvin Bragg, le procureur de Manhattan, il faut que ça soit relié. Il faut avoir falsifié les documents dans le but de commettre un autre crime. Et quel est cet autre crime? Celui d'avoir voulu influencer le cours d'une campagne électorale. Okay? Donc,
ça me semble pas très solide. Toi, quel regard tu portes sur une cause comme ça? Moi, je trouve que c'est un peu loufoque quand même.
Je sais pas. Moi, tu sais, mes références juridiques, c'est le patrimoine familial puis québécois. Là, je peux pas porter un regard. Le barreau va appeler. Je vais perdre mes licences. Je vais faire la Une Journal de Montréal. Je voudrais pas porter un regard. Mais il y a beaucoup de legal scholars, d'experts en ce moment, qui disent que c'est quand même une cause fragile parce que la falsification dans le but d'influencer une élection, évidemment, quand tu regardes le timeline, c'est à 11 jours d'un scrutin avec les effets, le contexte du tape de Access Hollywood. C'est sûr que ça a été, ce paiement-là a été fait dans le but que le candidat Trump soit protégé.
Puis convaincre tous les membres du jury que c'était exactement ça, hors de tout doute que c'est ça, puis que ça pourrait mener à un verdict de culpabilité. C'est ça qui me semble incertain. Je trouve que c'est de miser beaucoup Oui. Puis après, puis Trump, l'argument qu'il fait à travers ça, bien entendu, comme d'habitude, il joue à la victime. Il dit « Je suis victime d'une chasse aux sorcières, ce sont les démocrates, c'est le procureur de la justice, whatever. » Puis dans ce cas-ci, c'est sûr que comme c'est un fraudeur, c'est normal que le procureur du district de New York soit sur son dos parce qu'il y a une réputation de fraudeur à travers la Trump Organization. Oui. On sait tout ça. Fait que ça, je peux comprendre. Je trouve que les fondations de la cause, de la façon dont tu l'expliques, sont un petit peu incertaines pour nous amener à un verdict de culpabilité parce qu'on s'entend que nous, on est complètement biaisés. On veut qu'il soit coupable, on veut le voir, comme on l'a dit dans l'épisode avec Jean-Marc.
Le problème, c'est qu'en ce moment, la terre entière attend que ce gars-là soit pogné. Puis là, ça, c'est la première. En même temps, il y a plein de gens qui disent que la loi est claire puis que tu ne peux pas falsifier des documents. Puis tu peux pas. En fait, c'est de la fraude électorale. C'est un cas de fraude électorale. C'est pas un cas de porn.
Porn.
Pour vrai, c'est pas un cas de porn. Si toi, tu décides de payer Stormy, you can do that. Tu peux juste pas falsifier des documents dans le cadre.
L'argent qui provient de ta campagne.
Exact. Et les lois électorales sont assez claires, apparemment, à New York. C'est juste que dans le cas de l'analyse de Trump, il y en a qui trouvent que le bridge est un petit peu. Que c'est un petit peu far-fetched. Il y en a d'autres qui disent que ça a beaucoup de profondeur. Alors, on va voir. Là, en ce moment, ils essaient de trouver des jurys, mais évidemment, c'est formidable parce qu'ils en ont passé des centaines.
Oui. Au début, on se disait que ça va prendre des semaines, mais là, peut-être que ça va aller un peu plus vite. Le juge semble aussi avoir un contrôle assez pas pire sur sa salle d'audience.
Oui.
Comme je disais, je pense que Trump a essayé d'intimider un jury potentiel. Le juge a tout de suite dit à l'avocat, contrôlez votre client. C'est ça qui va arriver, en fait. C'est que lui, il va faire des esbroufes tout le temps. Il va s'exclamer, il va faire des commentaires, il va faire des sorties. Donc, il va être très, très difficile comme accusé à contrôler. Et en même temps, quel genre de personne qui habite à New York dans ce district-là est neutre par rapport à Donald Trump?
Mais qui dans le monde est neutre par rapport à Donald Trump? C'est la figure politique la plus polarisante des 10 dernières années. Je pense, peu importe où tu habites dans le monde, particulièrement, tu sais, pour vrai, ça serait la même chose, je pense, mais à l'inverse, au Texas ou au Kansas. Tu sais, là, on est à New York, mais c'est une. Et donc là, il pose des questions. Il y a tout un questionnaire qui est mis en place, puis là, il pose des questions au jury, genre, tu sais, on rit, mais c'est quand même pas drôle. Genre, êtes-vous dans une organisation terroriste, genre les Proud Boys? Êtes-vous, genre, avez-vous, tu sais, comme, êtes-vous, tu sais, puis là, ils fouillent leurs médias sociaux pour voir ce monde-là retweet pas des suprémacistes blancs qui sont des groupes ou des milices qui appuient Donald Trump dans tous ses mensonges, puis ça. Fait que pour vrai, l'analyse, de part et d'autre, là, de part et d'autre, oui. C'est comme, toi puis moi, on pourrait pas être juré parce qu'il tomberait sur ce balado et là, on serait tout à fait disqualifié. Mais c'est ce qu'on aurait dit. Puis il y a plein de gens qui disent comme, honnêtement, je l'haïs tellement que je pourrais pas. Puis ça, ils disent ça, c'est formidable parce que les jurés se présentent devant le juge et devant Donald.
Il les voit toutes. C'est comme les auditions à The Apprentice, là. Exact. C'est comme s'il y a une audition, mais lui, y a-tu le droit de choisir comme il dit-tu à son avocat, genre oui, OK, ce jury-là, je veux, ou on comment
c'est, non. C'est juré, c'est, non. Non, non. Les jurés sont convoqués, puis après ça, ils peuvent être disqualifiés s'ils ont des motifs qui peuvent faire craindre. Mais c'est pas des auditions, c'est pas
American Idol. C'est pas genre you're coming to LA, là. C'est pas
non,
ça.
Non, non. Mais apparemment que Donald serait intéressé, mais un intérêt variable. Hier, il s'est endormi. En cours. Okay. Ouais. Donc, il y a Maggie Haberman, la journaliste du New York Times, qui a report à CNN qu'à un moment donné, il avait la tête qui partait, le petit menton qui partait, puis elle dit qu'il avait la bouche slack. Puis
il avait un peu une petite bave. Là.
Il avait la petite bave. Fait que Sleepy Joe, mais peut-être Sleepy Don aussi.
C'est ce qui nous amène, parce que là, on est à 7 mois des élections. On est à un peu moins de 7 mois des élections. Oui. Écoute, le chemin qui se dresse devant nous d'ici cette élection-là au niveau des procès, c'est que ce serait probablement le procès qui va se rendre jusqu'à un verdict. Là, on imagine bien qu'il ferait appel de n'importe quel verdict qui serait pas.
On aurait probablement un premier verdict avant novembre 2024. C'est après l'appel prendrait probablement, puis la détermination de la peine, puis tout ça, évidemment, ça pourrait se reporter après, mais c'est probablement le seul procès qu'on aurait avant, avant l'élection.
Et aussi, j'imagine que comme c'est un jury, il faut que tout le monde, tous les jurys soient unanimes pour arriver à une condamnation. Donc, s'il y a une seule personne qui refuse de dire qu'il est coupable, par exemple, lui pourrait dire que c'est une victoire parce que pour cette personne-là, fait que c'est énormément de pression sur ce jeu.
C'est énormément de pression. S'il y a un verdict qui sort à la fin de l'été, l'élection est en novembre.
Ah ouais.
Si ça avait été mêlé à d'autres causes, il y aurait eu moins de pression sur celle-là, mais en même temps, c'est ça. Les autres causes, pour vrai, ça se traîne un peu, là.
Oui, ça traîne, puis c'est pas... mais ça, les experts le disaient depuis quelques mois que c'était pas l'idéal si c'était la première cause, mais là, c'est celle-ci et nous y sommes. Ce qui m'amène quand même aux conséquences dans l'opinion publique par rapport à ça, parce que les sondeurs demandent beaucoup, est-ce que ça vous empêcherait de voter pour lui comme candidat s'il était reconnu coupable? Pour certaines personnes, pour certains républicains, les républicains qui ont voté Nikki Haley, ça semble avoir des conséquences.
Ouais.
Mais ce qui semble ressortir, parce que là, j'ai juste vu des reportages, je suis pas mieux qu'un autre, mais ce qui semble ressortir aussi, c'est que pour beaucoup de gens, ils se diraient même un Donald Trump reconnu coupable est moins pire qu'un Joe Biden pour des gens. Mais ça, c'est quand même, on parle
de hardcore, là. Ça, c'est... Oui,
mais quand même, mais c'est de se dire qu'il y a des gens qui pensent que. C'est ça qui est dur d'imaginer. Je sais que toi, tu ne penses pas ça, Martin, mais il y a des gens qui pensent que Joe Biden, c'est l'antéchrist, tu comprends? Tu sais?
Oui.
Nous, clairement, on pense que c'est Donald Trump, mais dans leur vision du monde, Joe Biden, c'est l'antéchrist et Donald Trump, c'est le messie. C'est ça leur construction, leur vision du monde. Et c'est ça qui me fascine, c'est qu'il n'y a aucune accroche à la réalité, même un procès. Même de la fraude, même si on démontre devant une cour de justice que c'est un menteur et un fraudeur.
Basculer dans le culte, et c'est une des raisons pour lesquelles toi et moi, on se réunit derrière ce micro et qu'on se chuchote des confidences sur toute cette folie-là, c'est que c'est la plus grande puissance du monde bascule tranquillement dans un culte de la personnalité. Puis là, je vais faire des gros parallèles, mais sérieux, l'Allemagne... dans les années 30, était une démocratie. Une démocratie très imparfaite. Les gouvernements ne duraient pas longtemps. La République de Weimar. Non, mais je vais là.
Vas-y.
Oui,
c'est un appelle ça déjà. Je ne me souviens pas le point Boudwig. Non, je ne me souviens jamais de cette affaire-là. Ramener quelque chose à l'époque nazie. Fait que tu dis. Oui. Et toi, tu penses qu'on est comme en Allemagne en 1934?
Ben, non, je ne pense pas ça. Mais je pense qu'il y a des similitudes dans la perte de sens critique d'une population et l'élévation d'un homme fort. Qui manipule la misère du monde et qui fait en sorte que ça devient un culte de la personnalité. Et donc, ces gens-là peuvent dire absolument n'importe quoi. Le culte est rendu tellement fort que la population va les suivre malgré tout. Pour vrai.
Et il faut se rendre à... Puis moi, c'est pour ça qu'on fait encore une fois ce podcast-là, c'est pour anticiper. Moi, ça m'aide beaucoup dans l'anticipation. Là, on est en avril.
Oui.
En janvier 2025, il y aura une personne qui va être assermentée présidente des États-Unis. Cette personne-là, nous, on espère que ça va être Joe Biden. Si c'est Joe Biden, il va avoir une portion significative du pays qui va encore croire que l'élection a été volée. Que c'est le... Fait que ça va pas bien se passer, ce moment-là. Ouais. C'est encore une fois, si cette personne-là, pour une raison qui pourrait arriver dans le collège électoral, c'était Donald Trump, là c'est la vraie catastrophe. C'est le vrai enjeu.
C'est pour vrai. Est-ce que Hillary Clinton va aller à la sermentation de Trump en 2025? Ben, qu'est-ce qui...
Ils ont démontré toute leur bonne volonté. Donc, ça nous amène là. Et cette idée du criminel, c'est une carte. Tu sais, je pense que dans leur arsenal, les démocrates n'ont pas beaucoup de cartes. On en a parlé quelques fois, la carte de l'avortement. Et clairement, c'est horrible ce qui se passe. Donc, c'est pas juste une carte, là, mais c'est complètement horrible qu'est-ce qui se passe. Mais quelque chose qui fait réagir, c'est quelque chose qui va mobiliser les femmes, qui va clairement aussi, je pense, jouer en leur faveur. Notamment en Arizona, qui est quand même un État qui avait voté pour Joe Biden, d'une part. De l'autre part, il y a la carte du fou, du maniaque, du débile, et du criminel. Le fou débile, on le sait déjà, il n'y a pas de nouvelles informations, mais c'est cette idée du criminel-là. Et c'est de voir comment des républicains qui sont normalement associés à la loi et l'ordre, à vouloir que les choses soient respectées, comment ils peuvent concilier ça. Mais ils ne sont pas à une contorsion près ou à une hypocrisie près.
Puis la folie des républicains va être assez... Tu sais, pour vrai, pour un républicain pur et dur, voter pour un démocrate, ça dépasse tout entendement. Tu sais, c'est comme... C'est absolument impensable. Fait qu'ils vont choisir le criminel, puis c'est ça qui va se passer.
Si on le voit à travers même ce qui se passe. Là, vous aurez compris dans le podcast, on ne suit pas nécessairement l'actualité chaude au jour le jour au Congrès et compagnie, mais ce qui se passe en ce moment avec les républicains au Congrès qui sont même pas capables dans leur conférence, qu'il y a une petite majorité, d'être solidaires derrière. C'est une guerre intestine entre les gens qui comprennent.
Encore aujourd'hui, ils veulent destituer le speaker. Là. Ils veulent...
Ça, Johnson, ils veulent destituer Johnson. Oui. Mais ce que les extrémistes n'ont pas l'air de comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'ils retournent vers les extrêmes, ils perdent les banlieues. À chaque fois, c'est comme ils ne gagneront pas de cette façon-là. Alors nous, d'une certaine façon, si on veut être les avocats du diable, on veut que ces gens-là soient forts au sein de la conférence, que les gens, les Marjorie Taylor Greene, tant mieux si elle est présente et qu'elle fait du bruit. C'est ça qui va faire que les démocrates vont gagner dans les banlieues, dans le... Tu comprends? Parce que les gens vont être tellement turned off de ça.
Je partage ton cynisme.
C'est ça, tu sais, parce que si la France, elle existe pratiquement plus, mais s'il y avait la France plus, on va dire, modérée des républicains ou plus rationnelle, qui gardait les adultes, là, on va dire, qui gardait le pouvoir de la même façon comme les démocrates plus modérés gardent le pouvoir, les gens les considéreraient. Oui. C'est qu'à chaque fois, donc c'est un peu l'espoir que j'ai, c'est qu'à travers tout ça, c'est qu'ils démontrent tellement leur folie maniaque que certains électorats clés aient besoin. Puis ma théorie électorale pour l'année aussi, c'est que plus on voit Trump, plus il nous écœure. Fait qu'il était remonté dans les intentions de vote parce qu'on ne le voyait pas.
On le voyait pas. On disait, je pense qu'il y avait un Trump nostalgia, d'une certaine façon, en se disant, où est la nostalgia? Soudainement, je deviens prima donna. Ben oui. Mais tu sais, dans le sens où avant la pandémie, il n'y avait pas d'inflation, la vie coûtait moins cher. Les gens étaient dans une situation économique peut-être plus enviable. Je dirais même pré-COVID, là, parce que maintenant, ça a viré. Là. Mais peut-être que ça, il y avait un facteur qui jouait. Sauf que là, c'était quand même formidable. Hier, il y avait Joe Biden qui faisait un événement en Pennsylvanie avec des steel workers, okay, les unions. Les steel workers. Il a fait un bon discours, hein, j'ai trouvé bon. et il y avait Trump qui était devant le tribunal à New York en disant « I didn't do anything wrong. Everything was fine. I don't know Stormy Daniels. I don't know her. » Il disait qu'elle connaissait pas tout ça. Fait que t'avais un gars qui était devant une cour criminelle qui parlait d'une porn star. Puis, tu avais l'incumbent qui était avec des syndicats, des travailleurs.
Je peux y croire, Martin, mais ça reste que le disque dur de Joe, il roule un peu lentement, tu sais. Quand tu le vois, t'es comme ça souffle. T'entends le ventilateur, là, l'ordinateur, il y a
chaud. Pourquoi est-ce qu'on a un malaise avec ça? Là, il faut, toi et moi, se questionner sur notre rapport. Et je le dis, si ça peut servir à ça de façon accessoire.
C'est l'âgisme, mais moi, je dis au contraire, c'est une gérontocratie. Ils sont tous trop vieux à un moment donné. C'est comme... Oui. Mais bon, c'est la seule personne dans la vie aussi qui a battu Donald Trump dans une élection.
Exact.
Je lui donne ça, là. Je lui dis, il a quand même fait ça dans sa vie.
Exact.
J'espère que ça va se reproduire en cet automne.
Mais moi, pour vrai, je mets beaucoup d'espoir. Tu sais, on revient à Stormy, là, parce que je mets beaucoup d'espoir sur Stormy. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Un genre de retour aux sources, une vraie nature, une consommation par le feu de Donald Trump. S'il doit tomber, que ce soit par la porn et la vulgarité dont il a fait preuve, que tout ça devienne... Tu sais, bien sûr, on aurait aimé ça qu'il y ait un grand procès sur la démocratie et des sujets nobles, mais non. Ce sera sur les paiements qu'il a fait à une actrice qui ensuite a dit à Jimmy Fallon qu'il avait un mushroom dick. Parce que Stormy a dit qu'il avait un mushroom dick. Ça se trouve sur YouTube, Jimmy Fallon, il montre plein de petits champignons de forêt, des petites pleurotes là, qu'on trouve dans les forêts avoisinantes. Oui, puis elle a choisi le plus petit et le plus rabougri. Elle a tout dit. Allez écouter ses entrevues, c'est formidable. Et le documentaire Stormy, une tempête. En terminant, je suis allé regarder, parce qu'on dit, c'est quand même toute une carrière, tu sais. Je suis allé voir sa filmographie et j'ai trouvé des...
C'est quoi les titres des films?
C'est parce qu'il y a quelques titres qui, je trouve, qui peuvent bien Je ne veux pas trop donner d'idées au bye-bye, mais il y a quand même des choses qui peuvent bien avoir un lien pertinent avec le procès et l'actualité qui nous préoccupe, Thomas. Stormy Tonight, Stormy Secrets, je trouvais ça bon.
Stormy Secrets, c'est comme un type de podcast.
Oui, un long-métrage de 2001. Stormy and Her Horny Friend.
OK. Mais là, un long-métrage à succès. Bon, là, ça, c'était une autre époque, là. Hein? Aujourd'hui, elle fait plus ça, là. Elle fait plus de ça. Il n'y a plus de nouveaux films.
Elle est retraitée. Elle est retraitée, mais je pense qu'elle fait encore des collabs.
Oh my God, OK.
Oui. American Girl 2. J'ai pas trouvé le 1. Ça tient-toi bien. California.
Ah, California. C'est ouais. Du mauvais, mais c'est fantastique.
Oui. Peut-être ce que deviendront Melania et Donald à l'issue de tout ça. Divorces.
Wow! Oui, mais la note.
Attends, j'en ai un autre. Donc. Peut-être que des fois, Donald doit dire: bon, c'est pas si pire. Tits Happens.
Tu me niaises, elle a un film.
Elle a un film qui s'appelle Tits Happens. Et le dernier, je me dis: peut-être que Donald va se demander ça une fois qu'il va être en prison au Chili avec un petit bracelet sage-fille droite. What went wrong? Alors, je pense que dans la filmographie de Stormy, de Mme Clifford, on peut trouver réponse. Peut-être, là, j'ai pas visionné les films, évidemment, j'ai pu...
Je sais pas si ils sont facilement accessibles, ces films.
Non, mais c'est comme des VHS, des DVD, tu sais, à comme commencer dans les années 90-2000, fait c'est vraiment des films que tu louais, plus au Superclub Vidéotron, tu sais, quand les messieurs poussaient les petites portes de salon, là, puis tu voyais juste les pieds, puis...
Tommy Daniels. Wow! Écoute, on va suivre ça, ça commence pour de bon dans...
Ah, ça commence, ça commence, puis ça va durer au moins... Ils disent au moins un mois et demi, deux mois. Fait que ça nous amène en plein été. Peut-être qu'à l'été, la cause à Washington sur l'interférence de l'élection va s'ouvrir. On va peut-être avoir un début de procès. Ça va peut-être amener un peu de noblesse à la cause à suivre. Mais certainement...
Moi, ma théorie, c'est que les gens, le public, les grandes questions de la démocratie, ça, le public s'en fout.
Peut-être.
Moi, je pense que c'est...
On aime mieux la porn.
On aime mieux les trucs salaces.
Oui.
Wow. Mmh. Mais on va suivre ça avec grand plaisir. Écoutez, chers auditrices et auditeurs, c'est nous deux. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui.
C'est ça. Tu sais, des fois, il faut se retrouver dans l'intimité. L'intimité, c'est important. On peut accueillir d'autres personnes dans le duo, mais des fois, il faut solidifier la base.
Dans les prochains épisodes, on va accueillir une insurrectionniste. On pourrait le teaser. Ce sera le prochain épisode. Une personne qui a participé à l'insurrection du 6 janvier et qui a fait de la prison. Et qui, depuis, est complètement reconvertie et qui est sortie du culte MAGA. Ouais. Elle s'appelle Pam. C'est quoi son famille?
Pam Hemphill. J'ai écrit sur Twitter. Elle est extraordinaire. Elle s'appelle la MAGA Granny.
Oui. Et donc, elle
Pam.
Elle court les rallies, elle essaie de déradicaliser.
Sa quête, c'est de déprogrammer des fidèles de Donald Trump. Fait que c'est quand même
passionnant.
On va sortir de la porn, puis on va aller dans autre chose, mais c'était quand même important, toi et moi, de parler de ça aujourd'hui. Puis on va suivre les ramifications.
Bon procès, Martin.
Bon procès, hush.
J'espère que LCN va t'inviter. C'est très bon comme juge.
Non,
juge,
pour vrai, moi aussi, je peux me mettre dans ma grande salle à manger avec trois tableaux du fleuve en arrière de moi. Là, puis,
pas pire, ton bureau, il n'est pas pire. Il y a une genre de bois de grange à gauche.
Oui,
là.
Mais si je t'invitais à titre de juriste, je me mettrais un setup digne de ce nom.
Prestigieux. OK, merci.
Bye-bye. Oh, say does that star-spangled banner yet wear? O'er the land of the and the whole